Chapitre 94. Saga a emprunté à Jackie une boussole, une lampe frontale, une lame de scie à métaux, une bouteille d'eau et un petit sac à dos. Puis elle est retournée en courant à la gare où elle a pris le train pour Södertälje. Elle a volé un vélo devant le bâtiment jaune de la gare. La sonnette a émis un son cristallin lorsqu'elle a fait sauter le cadenas d'un coup de pied. Jackie a précisé qu'il y avait probablement d'autres entrées que Mai ne connaît pas, mais que celle-ci commence par une longue échelle et un couloir étroit qui se dirige vers le sud. Saga tourne maintenant sur la Österhöjdsvägen et continue dans la grande forêt de feuillus. Elle pédale aussi vite qu'elle le peut, mais tout prend beaucoup trop de temps. Au sommet de la colline se dresse un énorme château d'eau et un réservoir cylindrique posé sur des piliers angulaires en béton disposés en cercle. Saga s'arrête et laisse le vélo par terre. Ses cuisses sont tendues après la montée. Elle court vers le château d'eau et ralentit lorsqu'elle aperçoit une adolescente toute petite en survêtement blanc.
« Mai ?»
demande-t-elle en s'approchant lentement.
« Je m'appelle Saga. »
La fille l'observe avec un visage dénué d'expression. Elle ne semble pas avoir plus de 15 ans. Elle est pâle, avec des traits fins, un nez busqué et des yeux couleur bleu glacé.
« C'est moi qui vais descendre dans le tunnel, » explique Saga. Tous les piliers sont peints à la bombe à partir des fondations jusqu'à environ 3 mètres de haut.
Mon ami Jackie m'a dit que tu pouvais m'aider, ajoute-t-elle.
Mai pose une main sur sa poitrine plate, hésite, puis fait un geste négligent en direction de la forêt.
C'est par là?
Demande Saga.
À quelle distance à peu près?
Mai passe devant les piliers, saute de la fondation, puis s'enfonce parmi les arbres. Saga la suit sur une 50aine de mètres dans la forêt. Elle descend le long d'une montagne, tourne à droite et s'arrête devant une trappe en métal rouillée sur une dalle de béton. Les restes d'un gros cadenas gisent sur le sol dans les buissons de myrtilles. Saga s'avance, ouvre la lourde porte et voit une échelle qui descend tout droit dans la montagne. Des mites grises s'envolent de l'intérieur confiné.
Tu peux attendre ici et ne fermer la trappe que quand je serai arrivé en bas.
Mai lui sourit, laissant apparaître des dents tordues.
« Tu peux faire ça ?»
répète Saga.
Le regard de Mai redevient distant. « Juste pour que je puisse voir les marches quand je... »
Saga s'interrompt quand Mai se détourne et repart en direction du château d'eau. Elle suit du regard la silhouette fine de la jeune fille, puis laisse tomber son sac à dos, sort sa lampe frontale et l'oriente vers le puits. Des milliers de fils d'araignées entremêlés brillent à une 20aine de mètres de profondeur. Puis c'est l'obscurité. Elle remet son sac à dos, règle la luminosité de la lampe frontale au minimum et resserre l'élastique. Puis elle s'engage prudemment dans le trou. Des petites pierres tombent, heurtent l'échelle et disparaissent dans les profondeurs. Elle s'accroche au socle de béton, puis saisit la lourde trappe et la referme sur elle. Tout devient noir. La lampe frontale éclaire un cercle sur le mur de la taille d'une assiette. Les araignées filent se réfugier dans les coins. Saga s'accroche aux barreaux rainurés et commence à descendre en cherchant des points d'appui stables et en comptant les marches. Elle entend le craquement des toiles qui se déchirent sur son passage. La sueur coule dans son dos. L'acoustique change bientôt, devient de plus en plus sourde au fur et à mesure qu'elle descend. Elle augmente sa vitesse lorsqu'elle se sent un peu plus en sécurité. 83, 84, 85. Soudain, son pied gauche rencontre le vide. Il manque un barreau. Son pied heurte le suivant et glisse. Elle se rattrape de justesse en agrippant l'échelle et ses épaules craquent lorsque ses bras s'étirent. Sa bouche cogne contre un barreau et son genou contre un autre. Son pouls résonne dans ses oreilles. Elle retrouve l'équilibre. S'immobilise quelques instants, avant de reprendre la descente plus prudemment encore. Il fait de plus en plus froid. Elle écrase accidentellement une araignée avec sa main. L'acoustique est si oppressante qu'elle a l'impression de devenir sourde. Elle n'entend que sa propre respiration, le déchirement des toiles d'araignée et le léger tintement de ses mains sur le métal. Au bout de 200 marches, Saga s'arrête, augmente la luminosité de la lampe frontale et regarde vers le bas. Elle n'est plus qu'à une 10aine de mètres du sol.
Elle descend rapidement les derniers échelons et se retrouve sur un sol en béton couvert de terre et de vieilles feuilles. Des petits moustiques tourbillonnent dans la lumière de la lampe frontale. Ses doigts sont froids et raides lorsqu'elle enlève les toiles d'araignée emprisonnées dans ses cheveux et sur ses vêtements. La seule issue est un couloir de 2,5 mètres de large sur 2,5 mètres de haut. Le silence est total. Saga baisse à nouveau la luminosité de la lampe pour ne pas révéler sa présence, sort son arme et se met en route. Le chemin est monotone et rectiligne. Sa lampe ouvre une allée de lumière de 3 mètres devant elle. Le reste est plongé dans une totale obscurité. Elle pense aux dessins représentant des crânes et des os qu'elle a trouvés dans la boîte de biscuits. « Ma famille », a écrit Mara. Sur la troisième carte postale qu'elle a signée d'une anagramme formée avec les lettres de son propre nom, elle disait « Juna va bientôt rencontrer ma famille ». C'est ici qu'il se trouve. Mara a compris que Juna était le seul à pouvoir arrêter Yurek, mais qu'avant de le faire, il avait abandonné tout le monde pour aller sauver sa fille. C'est pour cette raison, selon elle, que sa famille est morte. Mara va attirer Juna ici. Il a probablement reçu la dernière énigme et l'a résolue. Saga espère qu'il a eu son avertissement, sinon il est en danger. Mara va tirer dans le dos de Juna et accrocher le sac sous l'autoroute, au dernier point de la constellation de Yurek. Saga a compris que Mara est obsédée par les énigmes et les motifs, et qu'elle a l'intention de faire converger son propre schéma et celui de Yurek vers ce site souterrain, son royaume d'Hadès. Yurek aura sa vengeance depuis sa tombe, et Juna rencontrera la famille de Mara. Au bout d'environ 300 mètres, Saga arrive devant une trappe en acier massif qui semble se soulever manuellement grâce à un tourniquet relié à un engrenage. La trappe n'est pas totalement fermée. Elle laisse un espace d'une 20aine de centimètres avec le sol. Saga saisit le tourniquet, mais elle ne parvient pas à le bouger. L'engrenage est probablement rouillé, et la porte doit peser au moins une demi-tonne. Saga enlève sa lampe frontale et l'éteint. L'obscurité est maintenant totale. Elle tend la main, tâtonne la trappe à travers des couches de toile d'araignée, enlève son sac à dos et s'allonge sur le sol. Elle colle son visage contre l'ouverture, retient sa respiration et écoute. Elle perçoit des bruits sourds au loin, comme de l'eau qui cogne contre la coque d'un bateau. Peut-être s'agit-il simplement du mouvement de la roche-mère? Elle pointe son arme par l'ouverture, dirige sa lampe frontale et l'allume. Le faisceau frappe sous la porte et éclaire 2 pieds à 1 mètre de distance. Elle a un mouvement de recul, mais réalise aussitôt après qu'il s'agit d'une paire de bottes en caoutchouc abîmées. Son cœur cogne contre sa poitrine. Derrière les bottes, à environ 5 mètres, 2 vieux barils d'huile sont posés sur le sol en béton. Saga repousse quelques grosses araignées avec le canon de son pistolet, éteint la lampe et sent son pouls se calmer un peu. Allongée sur le dos, elle tourne la tête sur le côté et essaie de se glisser par l'ouverture. La tranche froide de la trappe en acier appuie sur sa tempe. Elle entend le métal grincer. Il suffirait qu'elle s'abaisse de quelques centimètres pour lui broyer la tête. Elle pousse légèrement sur ses pieds et essaie de se faire la plus fine possible. Sa poitrine se comprime, et les boutons de sa veste raclent l'acier. Elle réussit à passer. Tâte le sol, trouve le sac à dos, le tire, et roule sur le côté. Elle se relève rapidement, pointe l'arme vers l'avant, et rallume sa lampe frontale. Le couloir est vide. Des cloportes rampent dans les coins. Elle vise l'obscurité au-dessus du baril d'huile, s'immobilise un instant. Il n'y a personne. Une bombe rouillée de peinture traîne par terre. Elle est recouverte de toiles d'araignée blanche. Elle installe sa lampe sur son front et avance de quelques mètres. Des mites incolores volent dans la lumière. Elle entend à nouveau le grondement de la roche, comme si celle-ci respirait très lentement. Elle marche plus vite dans l'obscurité, le pistolet pointé vers le sol. Le halo de lumière
n'éclaire qu'un faible espace devant elle. Des fils d'araignées lui chatouillent le visage. Elle arrive à un croisement entre deux passages, s'immobilise, éteint sa lampe, et reste un moment à écouter l'obscurité. Elle songe à augmenter la luminosité de la lampe au maximum, avant de la rallumer, pour que le faisceau suive la ligne de tir au moment où elle sécurisera les passages. Ses yeux commencent à s'adapter à l'obscurité, lorsqu'elle voit soudain pulser une faible lumière quelque part sur sa gauche. Elle se dit que c'est une lueur qui persiste dans ses yeux, mais elle la voit qui continue à se balancer doucement sur le mur de béton, éclairant le passage de gauche, puis disparaissant dans l'angle du couloir. Saga réalise que la source de lumière doit provenir de la droite, et qu'elle se déplace légèrement dans différentes directions, de sorte qu'elle semble basculer d'avant en arrière. Elle s'essuie la main sur son pantalon, et replace son arme. C'est maintenant que ça a lieu. Elle avance lentement, et contourne prudemment l'angle, son arme pointée devant elle. À une dizaine de mètres, le passage s'ouvre sur une vaste pièce. Une bougie allumée est enfoncée dans une bouteille de vin. Saga marche aussi silencieusement que possible. À chaque pas, l'endroit lui apparaît un peu plus distinctement. Une flaque de sang scintille sur le sol en béton devant la bougie. Une traînée empare et se dirige vers la gauche. Il y a quelqu'un dans la pièce. La flamme de la bougie vacille dans différentes directions au gré des mouvements d'air. Les murs semblent se pencher sous l'effet de la lumière changeante. Elle doit s'approcher beaucoup plus près pour pouvoir examiner la pièce. Saga perçoit soudain des pas souples. Elle s'immobilise, étend l'oreille. Mais ne parvient pas à localiser le son. Il pourrait aussi bien venir de derrière que de devant. Elle continue de progresser lentement. Son regard cherche la traînée de sang et la suit jusqu'à ce que l'angle la masque. Un bruit sec retentit sous sa chaussure lorsqu'elle marche sur un éclat de verre. Elle s'arrête et retient son souffle. Tout est de nouveau silencieux. L'autre personne a également bloqué sa respiration. Et écoute. Une grosse araignée se déplace sur sa toile, de sorte que toutes ses proies sont secouées. La flamme de la bougie frémit. L'ombre verte autour de la bouteille éclaire une partie du sol. Quelqu'un se déplace rapidement. On dirait que les pas grimpent sur le mur. Saga continue d'avancer. Maintenant, les pas descendent vers le sol. Un peu plus loin, quelqu'un gémit de douleur et de fatigue. Saga atteint l'extrémité du couloir et peut maintenant observer la grande salle. Celle-ci est carrée et possède 4 portes, une sur chaque mur. La lumière pulsante semble faire battre le cœur de la pièce. Saga doit à présent se trouver juste en dessous de l'autoroute. Sur le sol, à gauche, un gros paquet est posé dans une mare de sang. La montre-bracelet de Juna, offerte par sa fille, a été piétinée. Le cœur de Saga se met à battre plus vite. Dans l'obscurité de la porte la plus proche, Saga discerne un léger mouvement. Des bras et des jambes grises captent la lumière durant une fraction de seconde. Puis Mara Makarov apparaît. Son pistolet rouge pointé sur le corps allongé au sol, son doigt est déjà sur la détente. Saga sait que Mara aura le temps de tuer Juna si elle tire. Elle n'a aucune chance de l'arrêter. Ses mains tremblent, tandis qu'elle vise la poitrine de Mara, déplace son doigt du pontet à la détente et la presse au-delà du premier cran.